Le balado qui suit est une production de Communication Niviti, Capable Média.
Ici Kim Auclair pour Capable Entreprendre sans limite et vous écoutez la saison 2 de ce magazine que j'ai eu énormément de plaisir à produire, mais aussi à animer. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager en grand nombre chacun des épisodes. Bienvenue à Capable. Aujourd'hui, on rencontre un entrepreneur numérique qui adore redonner à sa communauté. Félix-Antoine, tu es entrepreneur numérique, conférencier et cofondateur de Romaine Code. Tu es une personne qui est ancrée dans la ville de Shawinigan. Tu adores faire rayonner le savoir d'ici et redonner généreusement à ton milieu en partageant ton expérience. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Merci tellement de l'invitation. Puis c'est super agréable de se faire présenter comme ça. On a tellement l'impression d'être plus cool qu'on est, en fait.
C'est ça.
Mais merci beaucoup, c'est très gentil.
Est-ce que tu peux me parler des débuts de ton entreprise, Romaine Code, puis de me parler comment ça a démarré cette aventure-là?
Oui, tout à fait. En fait, en 2016, moi, je termine mes études, mon MBA en gestion à l'Université Laval. Je m'étais expatrié le temps de quelques années pour les études, mais moi, je savais que je voulais revenir en région, à Shawinigan. Pour moi, c'est super important d'être ancré dans la ville où j'ai grandi. J'aime ma ville, j'aime mon monde, fait que je voulais retrouver mes repères. Mon frère et un ami étaient à l'emploi d'une entreprise en logiciel ici en région. Puis de soir et de fin de semaine, il avait commencé à développer un produit logiciel très niché dans le domaine de la photographie. Moi, je terminais mes études, comme je disais, en gestion. Mon bac est en communication marketing. Eux, c'est deux ingénieurs logiciels. Donc, ils m'ont invité à aller partager un shawarma ici au centre-ville. Ils m'ont dit « Ah, on a un projet logiciel, j'aimerais ça t'en parler, que tu nous apportes un angle un peu business à tout ça ». Fait qu'évidemment, ben, comme ils payaient le lunch, je me suis joint à eux. Puis de fil en aiguille, en jasant avec eux, ben, je trouvais que le projet avait du potentiel, mais on s'est rapidement rendu compte qu'au final, ce qui avait le plus de potentiel, c'était pas tant le produit, c'était plus l'équipe. Donc de fil en aiguille, ben, on a décidé de lancer une entreprise qui offrait les services de notre équipe. Et puis, ben, on a commencé ça à 3 personnes en 2016. Aujourd'hui, on est une entreprise de 25 personnes avec pignon sur rue ici à Shawi. Fait que très fier de nos racines puis continue de faire grandir ça à partir de chez nous.
Est-ce que tu avais imaginé ça dans ton plan de carrière de devenir entrepreneur?
C'est drôle parce que j'avais imaginé de devenir entrepreneur, mais je me voyais pas être un entrepreneur dans le domaine du numérique ou des technologies. J'ai toujours aimé, évidemment, là, c'est le classique cliché, toujours été tourné vers les ordinateurs, jeux vidéo, essayer de comprendre comment les technologies fonctionnaient. Mais mon profil à moi, c'est pas d'être un technologue, je suis un technophile. Donc, quand je faisais mes études au baccalauréat en communication marketing, j'étais à l'Université de Sherbrooke en programme coop. Donc, c'est l'alternance travail-études. Puis dans chacun de nos stages, tous mes superviseurs de stage m'ont tous laissé la même note finale, c'est-à-dire, t'es un bon employé, mais dans le fond, je pense que tu vas être difficilement employable. Tu devrais vraiment plus considérer l'entrepreneuriat ou de lancer ton entreprise ou de travailler dans un rôle de gestion. Fait que quand j'ai terminé mon dernier stage de mon baccalauréat, je suis rentré à l'appart avec mes colocs, puis j'ai dit, ben c'est fait, c'est la dernière fois que j'avais une job. C'est sûr et certain qu'à partir de maintenant, je me lance à mon compte. J'ai lancé des entreprises, tandis que j'étais aux études, qui ont été des fiascos monumentales. Fait que c'est correct, j'ai goûté à l'échec rapidement, ce qui m'a donné le goût de découvrir c'était quoi le succès, dans le fond. Puis c'est ça, je me voyais pas, je pense, être entrepreneur en techno, mais aujourd'hui, je me vois pas faire autre chose.
Puis on parle d'une équipe là, de cofondateurs.
Ouais.
Ça serait quoi ton rôle exactement dans l'entreprise?
J'ai fait plusieurs rôles. J'ai porté beaucoup de chapeaux. Quand on est une petite start-up, au début, toute autre tâche connexe prend plus de place que ton rôle sur le papier. Au moment où on a lancé l'entreprise, je m'occupais de tout ce qui n'était pas de la technologie. Donc, que ce soit le développement des affaires, la commercialisation, les communications, marketing, comptabilité, ressources humaines, c'était relax à trois. Rapidement dans l'entreprise, un des trois cofondateurs avait un désir de justement sortir du contexte technique pour plus se tremper les pieds dans le monde des affaires. Donc, j'ai laissé la direction générale de l'entreprise à mon associé. Je lui ai laissé, en fait, il la voulait, fait que c'était bien correct, on est un trio, on travaille en équipe. Puis moi, je me suis vraiment concentré sur communication, marketing, développement des affaires, parce qu'il faut savoir qu'on a connu une croissance très rapide dans les premières années. Puis chaque personne qui venait chez nous, c'était pas des fraîchement diplômés de l'école, c'était des gens qui avaient des carrières, des familles. Et la question qu'ils nous posaient systématiquement en entrevue, c'est « Allez-vous pouvoir garantir une paye aux 2 semaines? Ça fait 1 an et demi que vous êtes en affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires, les prospections? » Nous, on avait le goût du risque, mais les employés ont pas toujours ce même goût-là. Donc, on s'est rapidement rendu compte que ça prenait quelqu'un qui était dédié à l'acquisition client, au démarchage, ouvrir des marchés, aller chercher des nouveaux clients pour des nouveaux projets. Donc, c'est devenu ma responsabilité. Puis, en date d'aujourd'hui, j'occupe le rôle de président de l'entreprise. J'ai récemment quitté mes fonctions en titre de directeur général pour plus m'assurer de la vision de l'entreprise. Là, je déroge un peu de ta question, mais le contexte est important, je pense. En 2021, on a vendu une majorité de notre actionnariat à une entreprise de Québec qui s'appelle Libéo.
Oui.
Puis, dans la dernière année, on a fondé une société de portfolio. Donc, moi, je suis devenu actionnaire de Libéo. J'ai repris la présidence aussi de Libéo, qui est une agence basée à Québec puis à Montréal. Donc, en date d'aujourd'hui, pour faire réponse courte, mon titre sur papier, c'est président associé Rum & Code et Libéo.
Qu'est-ce qui est spécial aujourd'hui, c'est qu'on est exactement dans la bâtisse où est-ce que tout a démarré, donc au DigiHub, en revenant justement proche le studio qui était pas là à l'époque, le studio d'enregistrement. Qu'est-ce que ça te fait comme sentiment, ça te rappelle des souvenirs?
Ouais, tout à fait, vraiment. T'sais, pour nous, le DigiHub, ça a été un terreau fertile où planter les premières étapes de notre entreprise. On a connu, là, je vais de mémoire, 5 déménagements à l'intérieur de la bâtisse. Puis c'est parce que dans le fond, au moment où on a démarré notre entreprise, une des premières choses qu'on voulait valider, c'est est-ce qu'on est capable de travailler en équipe? On savait, tu sais, un des associés, c'est mon frère, Alexis, fait que je savais que j'étais capable de travailler avec lui. L'autre cofondateur, Yann, on n'avait pas réellement travaillé ensemble, lui puis moi. On voulait savoir si le triangle, ça fonctionnait. Donc, on a participé à des compétitions d'entrepreneuriat, puis de fil en aiguille, on s'est fait offrir un local ici pour un ou deux mois, le temps de comme tester des choses. Moi, j'étais sans emploi, j'étais consultant, travailleur autonome à l'époque. Mes deux associés, eux, avaient des bons emplois ici à Chaoui. Fait que de faire le saut, il fallait attendre d'avoir quand même au moins minimalement un contrat. Donc, quand on est arrivé ici la première fois, pour nous, le job, ça a représenté l'univers du possible. Tu sais, c'était, il y avait un écosystème, une communauté. On a pu pouvoir rapidement mettre en relation avec des donneurs d'ordre ou des organisations auxquelles on n'aurait pas eu nécessairement accès, qui justement rentraient ici pour faire appel à des entreprises du Digium. Fait que d'un point de vue émotionnel, de revenir ici, c'est un retour aux sources. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un environnement qui était confortable. Je me sens bien ici, je connais les gens, je connais les heures. Puis c'est drôle parce qu'on est directement en face du dernier local ou un des derniers locaux qu'on a occupé dans la bâtisse. Puis à un certain point, on manquait d'espace. Puis quand on a discuté avec l'équipe du GIA, ben, il était comme, ben, si vous voulez continuer à croître, il va falloir prendre toute une section, bâtir salle de bain pour vous, cuisine dédiée. Puis là, on s'est rendu compte que dans le fond, on avait dépassé le concept d'un incubateur. Mais on a déménagé à juste 1 kilomètre du DigiHub pour pas être trop loin. Puis on y revient toujours ici quand on a besoin de faire des rencontres stratégiques en dehors du bureau. C'est sûr et certain qu'on revient au DigiHub.
C'est un peu comme une retraite.
Ouais, exact, exact.
Puis je comprends que tu as eu énormément de support de la ville, de l'écosystème. Ça a été pour toi des mentors, ça a été des incubateurs. Fait que comment tu décrirais la communauté ici? Qu'est-ce qu'elle t'a donné exactement?
Ouais. Ben rapidement, la communauté puis l'écosystème ici nous a donné accès à des entreprises ou des organisations auxquelles on n'aurait pas eu accès. Donc ça, pour nous, c'était une façon d'accélérer notre croissance. Au-delà de ça, quand on a commencé, on se cachait derrière peut-être une façade. Quand les gens nous sollicitaient, disons qu'on avait investi pas mal plus dans le marketing que ce que réellement on était capable de livrer en termes d'entreprise. Tout le temps ça, les startups, oui. C'est ce que je recommande aussi. Faut avoir l'air big au début. Faut pas mentir, mais faut avoir l'air big. Donc, quand les gens nous sollicitaient pour être commanditaires dans des événements, nous, on vivait d'une paye à l'autre. Là. Fait qu'on n'avait pas des gros chèques à signer pour des organismes. Fait que ce qu'on disait tout le temps, c'est ben, on n'a pas l'argent nécessairement pour vous encourager, mais on a du temps. Parce que nous, on y croit à ces initiatives-là. On croit à la communauté. Donc, on s'impliquait en temps dans la communauté. Puis ce que ça m'a apporté, c'est ça, c'est que rapidement, on s'est placé nous aussi comme des bâtisseurs. On n'a pas la prétention d'être là, ici, puis de rouler notre boss depuis 30 ans, puis de bâtir l'écosystème, puis la communauté d'affaires. Mais rapidement, on a voulu s'impliquer, puis donner notre saveur, notre couleur. On était dans les premières années de la reconversion économique de Shawinigan aussi. Fait que disons que l'aide qu'on voulait apporter ou l'énergie qu'on voulait donner a été accueillie à bras ouverts. Puis ça a été une super bonne école parce qu'on a pu côtoyer des gens qui étaient impliqués dans la communauté d'affaires, mais communauté point aussi, depuis plusieurs années, qui nous ont fait passer de l'âge de jeune adulte ambitieux, un brin arrogant, de comme, viens, on va t'expliquer comment ça marche, le monde des affaires puis le métier. Fait que ça a été un univers super bienveillant, très accueillant, où on a pu faire des erreurs, on a pu se casser la gueule, puis on a pu apprendre puis bâtir des choses. Fait que ça, pour nous, là, ça a été vraiment un accélérateur de notre croissance personnelle en tant qu'entrepreneur. Mmh.
le fait d'avoir eu beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup de support, tant dans des périodes plus creuses que des périodes plus fortes. C'est ça qui t'a donné le goût de redonner autant à cette communauté-là, parce que ils t'ont énormément appuyé.
Oui, mais je te dirais que oui, le fait qu'on ait reçu, ça nous a encouragé à donner, mais je pense que c'était dans notre ADN. Parce qu'autrement, on n'aurait pas choisi de revenir à Shawinigan. Pour être 100% honnête avec toi, tu sais, dans le fond, lancer une entreprise en tech dont le but, c'est d'offrir des services à d'autres entreprises, Shawinigan n'était pas nécessairement l'endroit où on aurait d'emblée imaginé lancer ça à l'époque. Aujourd'hui, la situation est différente. Shawinigan est reconnue, notamment grâce au DIGIA, mais la reconversion économique aussi pour ce qu'on fait en techno puis en numérique. Mais à l'époque, tu sais, moi, j'étudiais à Québec. On aurait pu décider de lancer ça à Québec, Sherbrooke, s'expatrier, même à la Trois-Rivières, plus près des pôles, justement, Montréal-Québec. Mais on avait envie de s'ancrer dans notre communauté. Puis, tu sais, tantôt, je parlais d'arrogance. Je pense qu'elle avait un peu aussi de se dire que c'est possible. On avait le goût de prouver aux gens que, dans le fond, t'as pas besoin d'être à Montréal puis Québec pour faire des affaires en tech puis de bâtir des produits logiciels qui rivalisaient avec ce qui se faisait dans les grands centres. Puis c'était une occasion pour nous aussi de faire une stratégie de pénétration de marché par les coûts. Parce que comme on était en région, rouler notre business nous coûtait moins cher, les salaires étaient moins élevés, donc on pouvait être extrêmement compétitif dans les projets sur les coûts, ce qui nous a permis rapidement d'aller chercher des clients ou des organismes qui habituellement n'auraient pas fait affaire avec l'entreprise à Shawi. Fait je contourne la question, mais mon but, c'est plus de dire, on a reçu, mais c'est pas parce qu'on a reçu qu'on a voulu redonner. C'est parce
qu'on y croit. C'était vraiment dans toi.
Ouais, on y croit. Exact.
T'adores redonner. Je pense que tu fais beaucoup de conférences aussi, auprès des jeunes.
Ouais.
Moi, je dis, ma belle-fille te connaît. Fait que moi, quand j'ai dit à ma belle-fille que je te rencontrais aujourd'hui, elle te connaît. Fait que je suppose que tu donnes des conférences aux jeunes.
Ouais.
T'es très connue auprès des jeunes ici à Shawinigan. Puis, tu as une différence aussi. Moi, je me demandais, en fait, est-ce que cette différence-là, tu as déjà senti des préjugés par rapport au fait que tu n'avais pas de bras ou que ça t'a bloqué à certains moments dans ta carrière?
J'ai pas senti de bloquant. Moi, j'ai toujours vu ma différence comme ma plus grande force, en fait. Tu sais, je fais beaucoup de développement des affaires. J'ai beau avoir eu deux enfants, pris du poids, changé de style vestimentaire, mes lunettes, ma barbe, mes cheveux. Les gens vont me reconnaître pareil. Je fais tout le temps la blague. D'après moi, ils m'ont reconnu parce que je porte des lunettes. Visiblement, on le sait que c'est parce que j'ai un bras en moins. Là, fait que moi, j'ai toujours vu ça comme c'est pas ce qui me manque, c'est ce que j'ai en plus, dans le fond, ma différence, mon amputation. Ça me permet dans une foule d'être la personne qu'on remarque. Moi, j'ai jamais vu ça comme un bloquant. Puis les personnes qui m'auraient barré des portes ou fermé des opportunités parce que je suis différent, au final, j'ai pas envie de les avoir sur ma route.
Oui.
Aucune méchanceté envers ces gens-là. Je pense qu'il y a peut-être une petite introspection qui est de mise.
Capable d'entreprendre sans limite est présenté grâce au soutien de précieux partenaires. Parmi eux, l'Office des personnes handicapées du Québec. Vous êtes une personne handicapée ou un proche, vous avez des questions, besoin d'informations ou de soutien dans vos démarches d'accès à des services, l'Office est là pour vous, gratuitement, partout au Québec. Pour en savoir plus, visitez le www.ophq.gouv.qc.ca.
Puis sinon, pour revenir sur les conférences puis les allocutions auprès des jeunes, moi, rapidement, j'ai joint l'Association des amputés de guerre. Mes parents m'ont inscrit là-dedans. Puis je pense qu'ils s'inscrivaient plus eux que moi, dans le fond. Ils avaient plus envie d'aller voir des parents de d'autres personnes.
T'es ambassadeur de cet organisme-là?
Exact. Le titre exact, c'est conseiller junior, je pense. Puis dans le fond, c'est via le programme Les Vainqueurs, qui sont pour les jeunes amputés qui souvent viennent au monde avec une différence, que ce soit bras, jambes, mains, pieds en moins. Des fois, des super vainqueurs aussi qui sont à multiples amputations. Puis la mentalité dans l'Association des amputés de guerre, c'est qu'on va pas aller chercher une personnalité publique pour devenir porte-parole. La meilleure personne pour promouvoir qu'est-ce que ça a comme impact positif de financer des prothèses, des attelles ou autres adaptations, c'est le jeune qui en bénéficie. Donc, j'ai eu le privilège d'être formé pour pouvoir m'adresser à les médias, contribuer à des communiqués de presse, des lancements de produits, des cérémonies honorifiques rapidement. Puis c'est que ça a un double rôle. C'est de parler avec la communauté, mais c'est aussi de parler aux jeunes amputés, aux parents, aux familles. Puis ça a été une expérience pour mes parents. J'en ai des frissons juste en parler, mais c'est une expérience vraiment... Ça donne un boost de confiance, de calme. La première fois que des parents arrivent avec un jeune amputé dans un séminaire des amputés de guerre, ça s'appelle comme ça, il y en a un à Québec, à Montréal chaque année, c'est plein de familles. Puis quand les parents arrivent là avec leur enfant, souvent, eux, dans le fond, ils ont vécu dans un environnement fermé où le seul enfant amputé qu'ils connaissent, c'est le leur. Puis il arrive là-bas, puis dans le fond, il y a comme une centaine de familles qui sont là, puis tout le monde court, il y a des prothèses sur toutes les tables. Puis là, c'est les parents qui sont différents. Parce qu'être amputé, c'est devenu la norme.
Ben oui.
Fait que c'est de s'adresser à ces parents-là, puis de s'adresser aux jeunes aussi, puis de les inclure. Puis pour les jeunes, puis voir, moi, je me rappelle, il y a des conseillers juniors, quand j'étais un jeune vainqueur, qu'encore aujourd'hui, je recroise, puis ils m'ont dit, tu sais, ces gens-là ont aucune idée de l'impact positif qu'ils ont eu dans ma vie, de me donner le droit, dans le fond, d'être comme tout le monde. Fait qu'en étant formé avec l'Association des amputés de guerre, autant pour parler à ces jeunes-là qui ont une différence, d'être leur ambassadeur, que de les accompagner dans des conférences qu'ils donnent aux jeunes dans leur classe pour l'intimidation, pour pouvoir encourager la prudence, repérer les dangers dans leur environnement.
Leur montrer que c'est possible de s'accomplir autrement.
Ah, tout à fait, 100%. Tu sais, au final, moi, je vois ma différence comme ma plus grande force, puis à la limite, comme mon plus grand moteur. Autant parce que des fois, ça m'encourage à me dire, ben, je suis capable, je vais le montrer, que des fois, justement, ça m'encourage à me dire, je vais le montrer que je suis capable.
Ouais. Mais c'est justement le thème de l'émission, c'est le balado, c'est capable. Et c'est fun parce qu'à chaque fois que je fais des entrevues avec mes invités, le mot capable, il ressort naturellement. Ouais. C'est vraiment naturel. Et donc, ta différence pour toi, ça a été vraiment ta plus grande force. Et c'est ce que tu répètes sans arrêt aussi aux jeunes que tu croises, de voir ça comme pas un obstacle dans leur vie. Puis c'est ta façon, dans ton message. Est-ce qu'il y a d'autres éléments aussi que tu transmets naturellement pour qu'ils gardent leur confiance en eux malgré leurs différences?
Bien, en fait, c'est que moi, le message que j'incarne, puis c'est pas un message que j'ai réfléchi, que j'articule, c'est plus spontanément ce qui vient en moi, c'est que ce qui définit qui nous sommes, c'est pas ce que tout le monde a, c'est ce que tu as d'un peu différent. Bon, tu vas te connecter aux autres basé sur ce qu'on a en commun. C'est comme ça qu'on connaît, qu'on se reconnaît, une confiance qui se bâtit. Mais qu'est-ce qui me différencie de toi? Bien, c'est ce qui me rend différent. Fait qu'au final, moi, ce que j'encourage les jeunes, qu'ils soient amputés ou non, qu'ils aient un handicap ou pas, c'est de faire une petite introspection, prendre un petit moment d'arrêt pour dire, ben moi, plutôt que d'essayer de cacher ce que j'ai de différent, mes passions qui sont peut-être un peu moins connues, un peu moins mainstream, j'aime autant mieux les prendre puis en faire ma plus grande force. Puis je répète souvent que c'est pas par rapport à ce qui me manque, c'est ce que j'ai, dans le fond. Moi, il me manque pas un bras. J'ai une amputation.
Tu sais? Et on arrive justement, là, te donner des conseils, mais on arrive déjà à la fin de l'entrevue. Ce serait quoi des conseils que tu donnerais pour les entrepreneurs, bien, ceux qui ont une fibre entrepreneur, puis qui ont une différence aussi, mais qui veulent aller de l'avant vers les gens? Ce serait quoi, là, tes meilleurs conseils par rapport à ça?
Bien, premièrement, c'est que je pense qu'il y a un préjugé que nous-mêmes, on a en tant que personne handicapée, de s'imaginer qu'il va y avoir des barrières qui existent. Puis moi, dans mon parcours jusqu'à présent, peut-être que j'ai été chanceux, mais l'écho que j'ai de d'autres personnes qui ont une différence, c'est que ces barrières-là, elles sont moins nombreuses que l'on pourrait se l'imaginer. Au final, si on fait sa place, il y a de la place pour nous. Fait que la première étape, je pense, c'est de dire, j'ai le droit de briser l'inertie, j'ai le droit de me mettre en action, puis j'ai le droit de faire quelque chose. Ça, c'est la première chose. Tu vas être accueilli dans ta communauté. Des fois, tu vas peut-être être accueilli puis tu vas avoir certains avantages justement parce que tu es différent. Tant mieux. Profite-en. Tu sais, moi, au final, je le dis tout le temps, les avantages que j'ai obtenus en tant que personne handicapée, ils m'ont littéralement coûté un bras. Fait que tant mieux. J'ai le droit d'y prendre, j'ai le droit d'abuser de tout ce qui existe, qui est disponible pour moi. Là, je le prends. Ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, c'est que justement, c'est de dire, si tu essaies de te conformer en cachant ta différence, tu vas redevenir comme tout le monde et tu perds ton super pouvoir qui te permet de te distinguer. Quand au contraire, moi, j'ai pas une entreprise dans laquelle je fais la promotion du fait que je suis une personne amputée. Mais moi, j'ai pris le choix de ne pas porter de prothèse cosmétique parce que je suis à l'aise avec mon corps. Aucune critique contre les personnes qui en portent, là. Je comprends que toutes les situations peuvent être correctes. Mais moi, j'ai choisi de m'afficher comme une personne handicapée puis de pas être une personne handicapée pas avoir cette étiquette-là qui m'est collée à la peau, mais plus de dire, je suis comme ça, reconnaissez-moi, on va se revoir dans un événement dans deux semaines, puis même si je suis pas habillé pareil, puis que j'ai changé mes lunettes, vous allez me reconnaître.
Hey, bien merci, Félix-Antoine.
Merci, l'accueil, ça a passé trop vite, c'était très agréable.
Oui, ça a passé vraiment vite. Merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup, c'est super apprécié.
Fait que t'as juste à regarder, c'est un peu en lien avec la thématique. Moi, j'aime bien faire des petits dessins, fait que c'est juste une petite, un petit résumé pour te remercier.
Oh, wow! C'est super cool. J'adore ton identité graphique. Je suis allé voir ton site web, j'adore ça. Je trouve que c'est cool.
Je te donne aussi le cadeau de Tourisme Familial. J'offre...
De ben oui! Okay. Oui, mais c'est correct, je vais te donner l'impression que j'ai le droit de les redécouvrir.